remain an awful daytime. I might, and every moment awful night time. Bonjour à tous, bienvenue sur Coup de Bulle, l'émission qui vous parle de bande dessinée. Vous allez tous bien ?
Nous allons très bien. Oui. Bonjour. Bonjour Laure. Bonjour Ellie.
Bonjour tout le monde.
Et bonjour Nicolas.
Bonjour,
ce soir,
enchanté.
Nous avons un invité. C'est la première fois qu'on a un invité dans l'émission Coup de Bulle. Donc Nicolas Starosiak, j'espère que je l'ai bien prononcé.
Oui, sans souci.
qui est là pour nous parler manga. Et c'est une spéciale manga ce soir, avec notamment le travail de Nicolas, le festival Manga sur Loire et plein de choses. Et nous, on a lu plein de mangas dont on va parler. Et je pense qu'on va passer tous un bon moment là-dessus.
Super. Alors... j'ai hâte.
Oui. Tu vas voir, j'ai lu le tien. Là, ça va.
Ah, je sens que ça va être sympa encore.
Alors, on va commencer peut-être par parler du festival Manga sur Loire. Alors, le festival Manga sur Loire, moi, j'ai quelques questions qui me viennent comme ça. Quelques précisions d'ordre pratique.
Oui, sans souci. Donc, le festival Manga sur Loire se tiendra cette année le 9 novembre à Montlouis-sur-Loire, à l'espace Michaud. Oui, c'est ça, la salle Michaud. Et c'est donc un festival presque associatif en réalité, sur la culture japonaise, sur la culture nerd en général. Mmh. Et donc voilà, c'est un très bon festival, notamment l'entrée est gratuite.
Et, c'est bien ça.
Oui, voilà, c'est une très très bonne chose en réalité.
On aime bien ça.
Voilà. Et du coup, l'attrait principal pour moi de pourquoi j'aime ce festival et pourquoi je suis fier d'être l'illustrateur de ce festival, c'est tout simplement le fait que, en fait, je trouve qu'on retrouve dans cette convention l'ambiance qu'on trouvait dans les conventions des années 90, c'est-à-dire un véritable rassemblement de passionnés, où l'aspect pécunier est assez peu pris en compte au final, et où, en réalité, c'est pas vraiment une histoire d'inviter des grands noms du manga, d'inviter des grands noms de l'animation, de la culture nerd, geek en général, mais plus d'avoir un regroupement de passionnés. Et voilà, une espèce d'ambiance conviviale que je trouve maintenant on a un petit peu perdu dans les plus grands salons de France et d'Europe.
Ouais, ça, on est un petit peu d'accord, nous, ouais, à tour de bulle, avec ce point de vue-là, c'est clair.
C'est clair que nous, ça nous parle, tout ça.
Ouais, oui. C'est aussi nos valeurs, entre guillemets.
Ouais, tout à fait. Et donc là, du coup, pour cette édition-là, c'est toi qui as réalisé l'affiche ?
C'est ça, au fait. Il faut savoir que tous les ans, un concours est organisé, un concours d'illustration, par la mairie de Montlouis-sur-Loire, par tout un comité, etc., qui va déterminer quelle affiche sera la meilleure. Et cette année, c'est moi qui ai gagné. En fait, j'avais déjà participé quelques années, fut une autre époque, mais bon, ça compte pas, c'était une autre vie, je savais pas dessiner, c'était, voilà, c'était il y a longtemps, je pense qu'on peut pardonner mon jeune âge à l'époque. Mais du coup, voilà, en fait, j'ai gagné, et depuis ce moment-là, bah, en fait, tout se passe bien dans ma vie, déjà.
Je pense qu'on peut tant dire. Mieux.
Oui. Et voilà, en fait, j'ai découvert la joie assez étrange de découvrir son dessin absolument placardé partout dans sa ville, ce qui est à la fois très cool et à la fois très bizarre, je vous jure, que de voir le matin quand on va en cours ou quand on va juste à Tours voir son affiche placardée 25 fois et de voir son même dessin, ça fait bizarre au début, mais c'est très agréable en réalité, c'est assez rigolo.
Oui, j'allais demander, ça met pas trop la pression, ça va, c'est pas, on se dit pas trop non plus, oulala, tout le monde doit avoir mon dessin, entre guillemets.
Au début oui, mais en fait au final on s'y fait, on se dit que bon voilà, les erreurs sont les erreurs et que avec le temps voilà, on s'améliorera, voilà, c'est... Au final le dessin c'est juste une histoire de s'améliorer, d'apprendre à apprécier ses défauts et à les détourner, à les contrer, etc. Et, ou les apprendre à les aimer et ancrer son style. Mmh. Voilà.
Ah, mais il y a aussi une certaine fierté, hein, normalement.
Oui, bien sûr.
Je suppose, même je suis sûr, que quand tu as été choisi pour que ce soit toi qui fasses l'affiche, c'est quand même bien, quoi.
Oui. Sauf qu'en plus, je passais une journée absolument exécrable ce jour-là. Ouais.
Alors justement, parlons de l'affiche, là, c'est que moi, je ne l'ai pas encore vue.
Je vais vous la révéler.
Parce que je n'habite pas à Montlouis. Et elle est ailleurs, mais hélas.
Cette affiche.
Alors, c'est pas très radiophonique, hein, mais vous pouvez la retrouver,
vrai,
je pense, sur le site internet.
C'est sympa.
Merci.
Oui, moi je l'avais vue pour le coup. Je l'ai déjà bien repérée à Tours pour le coup. Elle commence déjà à être placardée.
J'aime beaucoup.
Merci.
Et là, du coup, alors comment ça marche? C'est-à-dire qu'il y a, on te propose un thème, enfin on impose un thème. Il y a des règles du jeu, puisque là, oui. Tant en termes de format, de contenu même, de personnages, tout ça.
Alors premièrement, en fait, il y a un thème qui est imposé tous les ans. Il y a un choix sémantique, un choix thématique. Là, le thème était la pop culture. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait créer une illustration qui fait référence à plein d'aspects différents, que ce soit bien de la pop culture américaine, japonaise, etc. Et après, bien sûr, il y a des contraintes qui sont liées au monde de l'illustration, c'est-à-dire qu'il faut garder de la place pour mettre un titre, pour mettre des infos pratiques, pour mettre un logo, etc. Et justement, c'est ce qui m'avait disqualifié pas mal de fois dans le passé, c'est que j'y faisais pas assez attention. C'est pour ça, là, j'ai laissé une bonne zone en bas et en haut pour, au cas où il y a un problème, qu'il puisse quand même se trouver un moyen de s'arranger pour placer tous ces éléments pratiques qui font, au final, l'utilité d'une affiche.
D'accord. Et là, le personnage qu'on voit sur l'affiche, c'est un personnage que toi, tu dessines par ailleurs, qui est une référence à des mangas existants.
Alors, il y a beaucoup de références différentes qui partent aussi bien du fond que du premier plan de l'affiche. Il y a des références, notamment dans le fond, on a un Scott Pilgrim. Je sais pas si vous connaissez Scott Pilgrim, la BD de Brian Lee O'Malley.
Je connais.
Très très bonne série.
Moi aussi.
Pour savoir, autour de cette table, je suis le spécialiste comics.
D'accord, très bien, okay, enchanté.
Moi là, je suis la caution jeunesse. Non, je plaisante.
D'accord. Voilà. Et moi je suis la caution vieux, quoi.
Yes.
Et du coup, là on a un Hellboy, là on a une réinterprétation de Finn dans le dessin animé pour enfants Adventure Time. Mélangé avec le personnage de Kamina de l'anime Gurren Lagann, Tengen Toppa Gurren Lagann, un anime assez connu et assez sympathique. Et le personnage principal, au fait, qui est en premier plan, c'est tout simplement une pratique qu'on voit beaucoup dans la pop culture qui s'appelle le gender bend, qui est au fait le fait d'inverser le genre d'un personnage. Et là, j'ai pris le personnage de Captain America et j'ai complètement interverti son genre. J'en ai fait une jeune fille, au fait. Notamment, voilà, j'ai même redesigné son bouclier là, juste là.
D'accord.
Voilà, pour cette thématique là.
Ben moi je suis, enfin c'est bien d'avoir les explications parce que moi pour être honnête autant je la trouve sympa comme ça à les regarder, mais c'est d'avoir une explication, une visibilité quelque part, c'est quand même un sacré plus quoi.
Alors, en réalité j'avais peur au début de mettre trop de références vu que le thème était pop culture, j'avais peur de mettre vraiment trop de références en blindé. Enfin, il y a même plein de petites références dont j'ai pas parlé qui sont vraiment cachées dans le décor, etc., qui sont visibles qu'en regardant bien discernement l'affiche. Mais voilà, j'ai préféré
c'est des petits secrets finalement pour
voilà,
les experts.
Voilà, c'est ça. La culture du easter egg étant très présente dans la pop culture, j'essaie d'en mettre un petit peu.
Et alors, est-ce qu'il y aurait par exemple un concours ou quelque chose qui serait organisé sur place pour voir qui les trouve finalement?
Ah, par rapport à ça, non. Mais par contre, il y a plusieurs concours qui sont organisés, notamment un concours de dessin, concours d'illustration qui tient sur 4-5 heures dans la journée, et un concours cosplay aussi, qui est une tradition en fait de la plupart des conventions, d'avoir un concours où tous les cosplayers, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les cosplayers sont les personnes se déguisant et imitant les traits de personnalité d'un personnage pop culture. C'est quelque chose qui vient des États-Unis mais qui est devenu très très fort au Japon et en Occident ensuite, grâce au soft power notamment.
Moi j'aime même bien dire, au lieu de se déguiser, plutôt se costumer, parce que je trouve que le terme n'est pas tout à fait le même.
Vrai, c'est vrai, c'est
Et
vrai.
Il y a souvent la notion de créer son propre costume,
bien sûr.
On est sur quelque chose. Parfois on a tendance à avoir une petite connotation péjorative.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas faux.
Et en fait, non, on est sur un travail très complexe.
Pour être ami avec beaucoup de cosplayers, effectivement, c'est un travail de longue haleine souvent, où la plupart des cosplayers font presque une nuit blanche la veille pour finir toutes les finitions.
La fameuse nuit blanche d'avant costume, d'avant cosplay.
Puis c'est surtout qu'en plus, ils ont, enfin en général, les cosplayers, c'est aussi un boulot sur toute une année quasiment un concours, parce qu'ils font des choses assez incroyables.
Puis ils essaient d'être le plus fidèle en fait au personnage d'origine, et pour que là où le dessin peut faire autant de détails qu'il veut, la création du costume peut être beaucoup plus complexe pour reproduire certains détails pas forcément très réalistes au départ pour la mode.
C'est ça, donc, les limites de la physique faisant que ça marche pas très bien des fois.
Donc ça peut être des heures et des heures de réflexion pour trouver une solution.
Bien sûr.
On a des passionnés, pas que de BD ici.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, toi-même, tu as déjà fait des concours de cosplay ou...
Alors, pareil, comme les anciennes affiches, c'était une époque révolue, c'est mon passé, voilà.
Il n'y avait rien d'inavouable, quand même, là.
Je ne sais pas si le terme inavouable serait...
Je pense que Nicolas ne veut pas qu'on aille voir les photos sur Internet, exactement, là, comme il est là, à mon avis.
Exactement.
C'est pas grave, on fait tous des erreurs de jeunesse.
Voilà. Ça sent le cosplay raté qui veut rester donc caché dans un placard.
Exactement, oui. D'ailleurs, il est caché dans un placard.
Ça fait partie des choses qu'il faut tester, hein, pour le coup.
Oui, voilà.
Mais ouais, donc il y a effectivement des concours pendant ce festival. Il y a pas mal de choses proposées autour du manga, mais pas que, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça aussi. Justement, là, en ce moment, de ce que j'ai entendu de la part des organisateurs à qui j'ai rendu visite à la mairie il y a une semaine, effectivement, il y a une espèce de volonté d'ouverture à la pop culture américaine, à la pop culture occidentale aussi. Tout simplement parce que ça se développe beaucoup avec les séries, avec le jeu vidéo occidental qui a repris une de la plus belle ces 15 dernières années, là où il était assez peu présent avant. Et du coup, oui, il y a beaucoup de choses en rapport. Je sais pas exactement ce qu'il y a d'autre. Je sais qu'il y a notamment un concours de jeux vidéo qui sera organisé. Je sais plus sur quel sur quel jeu exactement. On aura aussi, oui, un tournoi de sumo aussi. Les fameux, vous savez, les fameux sumo avec les espèces de juste corps gonflés.
Oui, d'accord. Espèce de costume gonflable.
Voilà, c'est ça.
Formidable.
Pour avoir testé, c'est assez horrible.
C'est assez horrible. J'ai testé aussi une fois.
C'est impossible de se relever. On roule. Oui. C'est pas plutôt rouler qu'autre chose. Je déconseille. Hein.
C'est un peu ergonomie moins 50, oui.
Voilà. Voire moins 100, moins 70.
Moins 70.
C'est un moment où tu peux t'amuser un petit peu, mais tu vas être un petit peu ridicule, léger.
C'est surtout amusant 5 minutes.
Oui,
après c'est vite chiant.
Voilà. C'est surtout quand tout le monde te pousse et que tu roules tout le temps.
Ouais,
c'est ça.
C'est
ça,
plus
c'est
à terre que debout, a priori. Hein. c'est pas simple. Ça fait partie de la culture japonaise quand même.
Mais
ça
tout
oui, bien sûr.
Ah bah c'est une institution au Japon, le sumo. Ah, c'est quelque chose de très
ancré dans la culture.
D'ailleurs, Feu Chirac était un grand fan de sumo. C'est pour ça d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on en a eu à la télé, fut une époque. Oui. Mais les gens voudraient qu'il aurait payé les droits de sa poche, mais.
Ouais, bon. À quel point sa poche de président, donc.
C'est un autre débat, mais
pas.
Ça fait partie de la légende. Après,
voilà,
c'est sympa.
C'est beau.
On peut y croire. Et là, du coup, alors justement, puisqu'on parle de culture japonaise, tu nous as dit tout à l'heure que tu prenais, tu suivais une formation de japonais.
C'est ça.
À Orléans, et tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être.
En fait, je suis dans un parcours qu'on appelle langue étrangère appliquée, en anglais et en japonais, surtout en japonais, en fait. On va pas se mentir. Et en gros, c'est une formation qui a pour but d'approfondir les civilisations. Les enseignements des civilisations anglo-saxonnes, enfin anglophones plutôt, et japonaises. Et ça parle aussi bien d'économie, de droit, que d'histoire, de culture, de langue aussi. On a beaucoup de cours de langue. L'un des buts de la formation, c'est d'avoir un niveau de maîtrise acceptable en japonais. Parce qu'on fait pas partie des écoles spécialisées en langue japonaise, c'est-à-dire qu'on n'a pas une volonté de créer des élèves qui seront à la fin de leur formation parfaitement bilingues, c'est-à-dire qu'on ne va pas apprendre tous les idéogrammes, par exemple, ce genre de choses, mais d'avoir des gens qui peuvent avoir un japonais suffisant pour pouvoir travailler, en fait, pour pouvoir peut-être enseigner, peut-être pouvoir travailler directement dans des boîtes japonaises. C'est notamment la puissance de nos formations, c'est qu'en fait, on n'a pas que des cours de langue et d'histoire, on a aussi des cours d'économie, de droit, notamment des cours de droits commerciaux, ceux que j'ai à l'heure actuelle, qui sont très intéressants, et en fait, justement, c'est une ouverture un peu sur la civilisation globale des pays qu'on étudie.
D'accord. Et donc, finalement, ton objectif, alors, ce serait d'aller habiter au Japon, ou d'avoir des relations avec, je ne sais pas, une entreprise, ou d'avoir des mangakas, et que toi, tu resteras en France, enfin, c'est...
Alors, moi, mon objectif véritable, je suis sérieux là-dessus, c'est d'être mangaka. C'est mon vrai but. Je fais aussi bien des concours en France qu'au Japon pour pouvoir accéder à ce titre et à ce métier un peu compliqué, mais qui au final est tellement intéressant et tellement passionnant qu'on voit pas les nuits blanches passer ou ce genre de choses. mais oui, moi c'est vraiment mon objectif. Après, j'ai fait des études de japonais pour pouvoir mieux comprendre la langue, ce qui fait que maintenant, par exemple, il y a quelques jours, j'ai regardé un épisode de One Piece en sous-titré japonais et j'ai plus ou moins compris tout sans avoir à lire les sous-titres, ce genre de choses. J'ai vu que quelques moments où j'ai un peu bégayé, j'arrivais pas trop à traduire. Et surtout, oui, en fait, ça permet de comprendre mieux la culture, parce qu'en réalité, quand on parle japonais, les mangas prennent un niveau de lecture au-dessus, en réalité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées dans la disposition des bulles, qui, en fait, sont liées, par exemple, à la grammaire de la langue, à comment les mots sont disposés en japonais, à comment est-ce que tout est mis en place, et notamment les jeux de mots, ce qui fait qu'en France, on a très très peu de gag manga, par exemple, de manga humoristique, parce que souvent, c'est des jeux de mots qui fonctionnent en japonais et que en japonais. C'est ce qui, d'ailleurs, fait donc la grande difficulté d'adaptation et le non-succès de ces séries, souvent.
Oui, si tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais je crois que c'est surtout une affaire de... Comment dire, je crois que vous ne m'entendez pas du tout au niveau du micro. Bon, c'est pas
si,
grave
si.
Pour le coup. Si vous m'entendez,
ah, très légèrement. Mais
j'avais un petit
très bien,
doute
ouais.
Pour le coup. il me semble que c'est en fait tout simplement parce qu'il y a des idéogrammes qui veulent dire plusieurs choses à la fois en fait.
Exactement.
Et que ça repose sur cette image, mais qui entre guillemets traduit en français, n'ont rien à voir grammaticalement parlant. C'est surtout une histoire de...
Oui.
D'idéogrammes. Qui...
Oui, oui, bah en réalité, la civilisation et la culture japonaise étant très différentes, le japonais, dans son écriture, a ce qu'on appelle les kanji. Les kanji sont en fait des idéogrammes, c'est-à-dire que c'est à chaque caractère équivaut à un ou plusieurs sens. Et en fait, le truc qui fait que le japonais c'est rigolo, c'est que ces caractères peuvent se combiner. Ce qui fait que, par exemple, on peut avoir pas mal de caractères qui vont obtenir de nouveaux sens s'ils sont à côté d'autres caractères qui vont obtenir aussi une autre lecture. Ce qui fait que les idéogrammes, quand on n'est pas japonais, sont un petit peu en enfer à apprendre, mais au final, il y a toujours une espèce de logique sous-jacente qui fait que, au final, on finit toujours par s'y retrouver. En réalité, c'est ce qui rend aussi le japonais très dur à traduire, notamment sur des médias où on a une place définie, comme le jeu vidéo, le manga ou l'animé. C'est que, en réalité, les traducteurs sont obligés de trouver un moyen de rentrer dans le nombre de caractères. Ce qui fait que souvent, par exemple, si vous regardez par exemple Pokémon, les deux premiers jeux, la moitié des personnages parlent en argot, à moitié comme des racailles. C'est en réalité parce que, au fait, ça permet de limiter le nombre de caractères. Et c'est ce qui rend ça très difficile, parce qu'au final, les idéogrammes, c'est deux caractères et ça a un sens très précis en réalité. Alors que là, en France, par exemple, on va devoir trouver un mot qui fait 8 ou 10 lettres pour, une phrase qui fait. Qui fait des dizaines de lettres pour pouvoir trouver un équivalent culturel et un équivalent surtout grammatical qui soit correct.
C'est super intéressant. C'est vrai, pour du coup, hein, on est passionnés, on te laisse parler.
Voilà, je suis tout
ouïe. Ouais, complètement, complètement. Donc voilà, dis-nous.
J'ai juste encore une petite question, c'est que je reviens à l'affiche. Combien de temps tu as pris pour la faire, et aussi quelle technique tu as utilisé?
Alors, pour la technique, c'est une technique purement digitale. J'utilisais Photoshop et Clip Studio Paint pour les connaisseurs comme logiciel. Tablette graphique, à écran, tout ça. Le temps de création a été excessivement long. Parce qu'en réalité, c'est une illustration. Au début, je ne comptais pas participer au concours. Et du coup, je le faisais juste comme ça pour rire. Et j'y allais une fois tous les deux jours. Je passais 2-3 heures dessus, je m'amusais. Et au final, au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, on va la finir. Et puis... voilà, en fait, ça a pris un bon mois et quelques à la faire, mais pas parce que je faisais que ça, mais parce qu'en fait, je faisais plein de choses. Notamment cet été, j'ai beaucoup étudié, j'ai fait beaucoup de storyboard et beaucoup d'animation. D'animation 2D, du coup, en fait, entre deux animations, j'y revenais, je mettais 2-3 coups de pinceau. Je disais, ah non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, machin, et puis je modifiais, et puis voilà.
D'accord. Merci. non, c'est toujours intéressant. Moi, je trouve que c'est une des choses dans un tour de bulle qu'on essaye de faire, c'est aussi que le public là qui nous écoute, mais aussi qui vient nous voir, qu'on essaye de lui montrer un peu quelles techniques sont utilisées, et si c'est compliqué, si c'est c'est-à-dire au-delà de l'affiche du produit fini, quoi.
Oui.
Quel que soit
comment
ce produit,
c'est fait,
comment c'est fait et le temps que ça peut prendre pour faire ça.
Oui.
Important.
Ouais, tout à fait. Et est-ce qu'on passerait pas à une petite musique, Philippe ?
Allez, c'est parti.
Alors, il me semble que c'est donc Nicolas qui nous la propose, c'est Mr. Children Fanfare.
C'est ça, Fanfare du groupe Mr. Children, qui est aussi le thème principal du film de One Piece, Strong World, et qui est un de mes groupes de musique préférés. Mr. Children, c'est une institution au Japon, ça fait 15 ou 20 ans que ça existe, et que le groupe continue toujours d'avoir une petite activité. Et qui a fait beaucoup de musique pour de l'animé, ce genre de choses. Notamment, c'est eux qui ont fait les musiques d'un des derniers Mamoru Hosoda. Il a fait les musiques du Garçon et la Bête. Et c'est un très très bon groupe qui est un petit peu dans des sonorités légèrement blues, rock, et qui mélange aussi les codes de l'Enka. L'Enka, c'est la musique pop traditionnelle, en fait, on va dire, japonaise, qui est souvent quelque chose de très contemplatif et de très nostalgique. Qui est la balade, au fait, japonaise telle qu'on l'imagine. Et justement, ce groupe mélange toutes ces influences et fait quelque chose de très intéressant avec...
Bon, on écoute ça.
Absolument.
C'est parti. We'll be right back. De retour sur À coup de bulle toujours. On va parler maintenant de nos petites BD croisées, ce qu'on a lu cette semaine. On va commencer avec Philippe, tu nous as amené quoi ? Raconte-nous.
Alors moi j'ai amené la trilogie de Taniguchi, Le journal de mon père. Ouais. Le journal de mon père, je vais le dire direct, moi c'est le premier manga que j'ai lu. Quand c'est paru en France, on en a beaucoup parlé, ça m'a intéressé. Donc j'ai acheté le premier, puis le deuxième et le troisième. Ça, ce sont les éditions d'origine. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, pour intéresser le public français au manga, les éditeurs se sont amusés à retourner les planches. C'est-à-dire que pour qu'on conserve le sens de lecture à l'européenne, oui. En prenant la première page, en tournant les pages de droite à gauche, alors que le sens de lecture d'un manga, c'est à la japonaise. On prend par la fin en Europe et on va jusqu'au début.
Voilà.
donc bon, c'était aussi pour ça. Et puis ils ont choisi Taniguchi parce que c'est, on va dire, c'est peut-être l'auteur. Enfin, pour moi, qui ne suis pas un spécialiste du manga, mais c'est vraiment un auteur qui représente un lien entre le manga et on va dire la bande dessinée franco-belge.
Du coup. Philippe, mais pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir ce que tu as entre les mains, c'est quand même impressionnant de voir un manga qui est en format grand format bande dessinée, la couverture devant, donc du côté vraiment gauche de gauche à droite, et en souple en plus. Donc
c'est rigolo
comme format, c'est la première fois que
je vois. C'est un format un petit peu bâtard entre manga et.
Ouais. Ce petit format roman qu'on peut avoir pour le manga.
C'est ça.
Alors. Je crois que là, moi, enfin, alors bon, donc je l'ai lu. Alors, c'est une histoire que je pense relativement autobiographique, ou au moins il y a Taniguchi dans toute son œuvre, il y a quand même un grand rapport entre l'enfance, oui. Le père, le lien avec le père, même il y a un lien fort avec des animaux domestiques, enfin, ou ces animaux proches. Alors, et là, moi j'ai lu ça, pour être honnête, c'était une grande claque.
Pour moi aussi.
Et du coup, l'histoire, c'est l'histoire ça commence un homme d'une 25-30 ans, il y a un moment que je l'ai lu pour être honnête, mais 25-30 ans est prévenu du décès de son père et retourne chez lui où il n'est pas retourné depuis 15 ans. Et pour tout un tas de raisons, il a un peu fui, puisque, quand on l'apprend au cours du récit, sa mère a quitté son père quand il était enfant, et il a toujours reproché à son père, finalement, de cet état de fait, et puis finalement, son père a beaucoup travaillé, il était coiffeur, il a passé beaucoup de temps à coiffer, et peut-être pas passé suffisamment de temps avec ses enfants, comme ça arrive à d'autres, voilà, et puis il a une belle-mère qui a quand même apporté... on le voit dans le récit, de la douceur et de l'écoute, mais bon, voilà. Donc il y a vraiment, cet état de fait, et le récit commence comme ça, donc il revient, et puis petit à petit, au cours de l'histoire, il apprend des choses sur son père, on lui rappelle des souvenirs qu'il a vécu et dont il ne se rappelait plus, et petit à petit, il réapprend à connaître son père. Alors, graphiquement, c'est du Taniguchi, c'est-à-dire que c'est du très très haut niveau, c'est du noir et blanc, les visages, les paysages, les situations, enfin les lieux, tout ça, c'est formidable,
oui,
franchement. C'est vraiment très très beau. Et j'ai relu il y a déjà quelques temps, mais je pense que je ne connais personne, et c'est un album que j'ai, c'est ce que je fais souvent quand j'aime, je les offre, je ne connais personne à qui je l'offre ou prêter qui l'ait lu et qui était indifférent, qui n'ait pas aimé, enfin c'est vrai. Extraordinaire.
C'est compliqué de pas aimer Taniguchi, parce que Taniguchi arrive à toucher quelque chose chez tout le monde, en fait.
Oui, c'est très universel.
On se reconnaît toujours dans une situation qu'il décrit excellemment, en plus. C'est ça qui est c'est quoi qu'il décrive, j'ai l'impression que ça nous parle directement.
Oui.
Parce qu'on a toujours vécu une situation peu similaire ou qui rapproche, et c'est assez fort chez Taniguchi pour ça, en fait.
Oui, c'est vrai.
Il y a un rapport au quotidien qui est très présent. En fait, il y a une espèce de truc vraiment de bulles, de parenthèses et de petits trucs. Parce qu'au départ, quand tu y penses, Taniguchi, c'est souvent des petits extraits de vie. Enfin, il n'y a pas une énorme action, tu vois. Enfin, il n'y a pas un scénario de dingue, une fiction, etc. C'est que du réel. Mais ça te prend quand même.
Il décrit des tranches de vie de façon tellement incroyable qu'on est obligé de se dire que... Ouais, mais je me reconnais là-dedans. Dans certaines situations, je me reconnais là-dedans.
On est dans des relations humaines, dans des sentiments. Moi, je crois que j'ai lu aussi, j'ai dû tout lire de ce qu'il a fait. Le promeneur solitaire, par exemple,
qui a un truc qui marche.
L'homme qui marche. Et donc, c'est incroyable. C'est-à-dire que là, effectivement, on peut dire le scénario, il est minimal.
C'est ça.
C'est vrai.
Moi, c'est mais ça que je trouve fou quand on y pense.
Aussi, ce qui est assez intéressant avec Taniguchi, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu en Europe. Mais en fait, il est un descendant de ce qu'on appelait le Gekiga. Le Gekiga, c'était un style artistique qui voulait être à l'opposé du manga, en fait, à la base. C'était des artistes qui voyaient les travaux, notamment de Tezuka, dans la première heure, ou de Ishinomori, par la suite, et qui, en fait, eux voulaient avoir un trait qui était, qui se voulait plus mature et plus réaliste. C'est pour ça que Taniguchi a un style qui se base beaucoup sur le semi-réalisme et sur l'imitation du réel, en réalité. Et en fait, là où le manga voulait vraiment raconter des histoires fantastiques, etc., le Gekiga avait la volonté de raconter des choses qui étaient plus proches du réel. C'est pour ça que beaucoup étaient du récit historique. Notamment, il y a un manga qui est très connu au Japon, qui est peut-être un peu moins connu en France, qui s'appelle Kamoiden, et qui est un manga qui se passe durant la période des Edo, il me semble, qui est un manga historique, qui est très connu dans ce registre-là, et qui, en fait, avait une ambition aussi bien graphique que scénaristique d'être réaliste. Et Taniguchi arrive à ce moment-là et a un trait qui est un petit peu entre les deux. En réalité, il a fait pourtant de l'action. C'est très peu connu, mais Taniguchi a fait des séries d'action assez, assez pulsées au début de sa carrière.
D'accord.
Mais voilà, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se veut plus réaliste et plus calme. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça a assez bien marché en France dès le début. Mmh. C'est parce qu'en réalité, dans les années 80-90, la culture manga était vue comme quelque chose d'un peu punk, en fait. C'était surtout aussi les choix éditoriaux qui étaient vus. C'est soit très enfantin, soit très punk, par exemple. Enfin, si on prend par exemple les deux grandes séries de l'époque étaient Akira et Dragon Ball, il y a une vraie opposition entre les deux, au fait, même si ça se recoupe par moments. Mais
après, faut voir aussi à l'époque, est-ce que Akira ou Dragon Ball était aussi populaire que maintenant, je sais pas. Mais par contre,
je sais pas.
Voilà, je pense que comme tu le dis, Taniguchi se rapprochait peut-être plus de ce qu'on avait l'habitude de lire.
Oui, je pense aussi.
Côté,
bien sûr, bien sûr.
Des même franco-belge et compagnie, je pense.
Clairement, ça a permis de toucher un public que ne touchait pas Akira et Dragon Ball.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Moi, que j'ai lu après, parce que voilà. Mais oui, c'était aussi l'objectif de finalement de pour l'éditeur de proposer ça. Mais moi, voilà. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que c'était un mouvement dans les années 90 où on a eu énormément d'albums d'autobiographies, enfin des choses qui touchaient des sentiments ou des histoires beaucoup plus quotidiennes, beaucoup plus intimes. Et je crois que là aussi, c'était un bon représentant de ce mouvement, qui est un mouvement général. Les autobiographies, enfin, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées après. Je pense à Persepolis, je pense à des albums d'autres auteurs. Non, là, vraiment, c'était mon choix, et visiblement, je pense que tout le monde a...
Je crois que tout le monde a aimé, Philippe. En même temps, Taniguchi, t'avais quand même une bonne chance d'y arriver.
Non, mais après, je comprends.
On aurait pu trouver des...
Alors, moi, j'en connais dans l'assaut qui m'aurait dit, mais c'est trop lent, je me fais chier, j'ai besoin que ça bouge.
Ah oui.
Mais ce que je peux comprendre aussi, mais...
Ouais,
voilà.
Mais c'est... Ouais, sans être... Enfin, c'est lent, mais c'est intéressant. Il y a vraiment quelque chose qui fait que tu te sens happé.
Oui, mais c'est ça, c'est ce que ça... Comme je dis, ça touche à l'intime, en fait.
Oui, voilà.
Donc, forcément, même si c'est lent, pourtant, moi, je suis le spécialiste des trucs qui pulsent à mort, machin, mais à un moment, c'est quand ça prend au trip, que ça avance ou pas, ça prend au trip, quoi.
Oui, c'est vrai.
Complètement. Je vous propose de passer maintenant à la bande dessinée, enfin, le manga, pardon, de Nicolas.
Oui, eh bien, quand on m'a proposé de choisir un manga, j'ai réfléchi à énormément de titres différents. En réalité, j'ai scruté avec attention ma mangathèque, ma bibliothèque dans laquelle tous mes mangas sont stockés, et j'avais beau essayer de trouver des axes intéressants, des séries à découvrir, etc. Il y avait la même série qui revenait tout le temps, la série avec laquelle je saoule tous mes potes de fac, tous mes potes de lycée depuis des années, et cette série, c'est Hunter x Hunter. Et du coup, je vous propose de vous faire découvrir ce manga avec une petite chronique que j'appellerai tout simplement Hunter x Hunter, Ambiguïté et Humanité.
Waouh. Ça promet.
Donc, pour faire les présentations, les infos pratiques, Hunter x Hunter est un manga écrit et dessiné par Togashi Yoshihiro depuis 1998 et prépublié au Japon par la Shueisha dans le Jump, le fameux magazine, le légendaire magazine qui a vu, qui a vu paraître notamment Dragon Ball, One Piece, JoJo's Bizarre Adventure.
Tous les gros hits qu'on a en
une
France
bonne partie.
En fait,
pourtant il y a des très gros hits au Japon qui sont pas du tout connus en Occident, qui sont pourtant excellents aussi en shonen, mais bon. Bref, et c'est toujours en cours en réalité, pour un total de 36 volumes à l'heure actuelle. Dans un monde rempli de mystères non élucidés, de créatures fantastiques et de trésors incroyables enfouis, Gon désire retrouver la trace de son père, Jin, hunter professionnel. Les hunters sont une sorte de catégorie sociale ou métier seulement accessible en passant un examen où frôler la mort fait partie des prérequis acceptés pour espérer réussir et vivre sa vie comme on l'entend après. Sur le chemin de l'examen, Gon formera un petit groupe d'amis comprenant Léolio, futur médecin venant d'un bidonville. Kurapika, seul survivant du massacre de son clan, est bien déterminé à les venger en pourchassant les membres d'une sorte de mafia. Et Killua, ancien assassin professionnel âgé d'à peine 12 ans. Ces derniers se présenteront à l'examen et vivront des aventures étonnantes, toujours dans l'objectif d'atteindre leur objectif respectif. Et à première vue, Hunter x Hunter semble être ce genre de shonen, manga, neketsu, baston, fantasy, classique, comme on en voit sortir toutes les années de l'archipel. Mais d'ailleurs, dans un premier temps, le mangaka nous impose effectivement bel et bien cette esthétique classiciste dans sa narration. En effet, les personnages ont un look assez funky qui rappelle les grandes sagas des années 80. Bien, on a un système d'échelle de puissance qui apparaît avec l'arc de la tour. On a aussi un véritable récit initiatique avec un personnage principal qui doit essayer de découvrir le monde dans le but de retrouver quelqu'un. Et aussi, on a pas mal de personnages qui sont assez typés au début. Gon est le jeune garçon valeureux cherchant son père. Killua peut sembler être un rival au début. Kurapika a un but vengeur, etc. etc. Et même les ficelles narratives des premiers arcs semblent indiquer qu'on a affaire à un shonen plus que classique. Le premier arc est un examen qui permet de camper les personnages, ce qui permet tout d'abord de mettre les personnages sur un pied d'égalité et de les camper très facilement pour par la suite mieux comprendre leurs relations et comprendre les différends qu'ils ont entre eux. Et le troisième arc est tout simplement un tournoi dans la plus grande lignée des Dragon Ball ou Ashita no Joe, ce qui permet de dévoiler les logiques d'affrontement d'Hunter x Hunter et surtout le système d'énergie ésotérique, car comme tout bon manga d'action fantasy, etc., qui se respecte, Hunter x Hunter propose son propre système d'énergie ésotérique, le Nen. Le Nen est un système très complet et très complexe comparé à d'autres mangas, et permet énormément d'applications. Il y a plein de principes, plein de choses qui continuent d'ailleurs encore à l'heure actuelle d'être expliquées au manga, dans le manga au fur et à mesure, pour pas nous assommer. Mais en gros, il faut imaginer une espèce de fusion entre le ki dans Dragon Ball et les stands dans Jojo's Bizarre Adventure. Et du coup, oui, cela permet donc toutes les fantaisies à l'auteur, ce qui permet de passer aussi bien par un mec qui va juste renforcer son corps pour taper plus fort, à un autre mec qui vous crée un système de crédit avec intérêt sur votre énergie vitale pour mieux vous sucer la moindre once d'énergie une fois un seuil de non-retour franchi, au mec qui peut voler tout simplement les capacités des autres et les utiliser à bon escient une fois un certain nombre de conditions remplies. Ce qui crée donc des affrontements qui sont à la fois martiaux mais aussi psychologiques, et qui crée aussi un sentiment de, comment dire, d'insécurité. On ne sait jamais où un combat va mener et sur quoi ça va finir. Et d'ailleurs, en parlant de doute et de psychologie, on arrive à un point qui est pour moi très très important dans Hunter x Hunter, qui est le test constant du lectorat et une véritable ambition sur la moralité. Car dès les deux premiers volumes, Togashi va très vite nous imposer une limite, une espèce de remise en question de l'histoire. En effet, dès le début, on voit deux assassinats qui n'ont rien à voir avec les combats dont on a l'habitude, valeureux et chevaleresques. En effet, le personnage d'Hisoka arrache les bras d'un personnage et Killua assassine violemment un autre personnage. Ce qui laisse pantois souvent le jeune lectorat habitué à ces gars de longs combats basés sur le courage, la détermination, etc. Et aussi, l'auteur se joue beaucoup de nous, grâce notamment à la non-récurrence des personnages et des arcs scénaristiques d'un point de vue global. En effet, parfois, le personnage principal, Gon, n'est quasiment pas montré d'un arc, notamment l'arc de Yorkshin City, pour les connaisseurs, où il n'a qu'une quête subalterne, on va dire. Il n'a pas une quête réelle qui l'aide à progresser. On finit par fantasmer des combats qui n'arriveront jamais, hein. On voit de quel manga on parle si on a lu ou on a vu la série, et notamment des personnages qui font aussi des choix 180 degrés, quitte à trahir toutes leurs convictions, ce qui crée un véritable trouble dans les attentes des lecteurs. Et de ce fait, en fait, le lecteur se perd tout simplement dans cette espèce de fable occulte où bien et mal sont des concepts inutiles et qui incite à une nouvelle lecture de l'œuvre, qui permet de se rendre compte de nombreux niveaux de lecture de Hunter x Hunter. Car en effet, Hunter x Hunter, des nouvelles lectures de lecture, il en a. Politique, écologie, drame humain, rencontre avec une autre forme de vie intelligente, questionnement des rapports entre le Japon et le reste du monde. Hunter x Hunter parle de tous ces thèmes, mais sans pour autant en faire le thème principal, hein, sans pour autant mettre que cela en avant. Car de l'aveu du mangaka lui-même, Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter se veut être une plongée dans l'émotion. Le flou moral crée un système où on juge difficilement les personnages qui nous entourent, qui est bon, qui est mauvais, et surtout, est-ce que ça a une forme d'importance? Et au final, la seule chose à laquelle le lectorat pourra se replier, pourra se sentir concerné, ce sera avec les émotions des personnages. Amour, cruauté, amitié, sadisme, rage, rire, haine. Il y a aussi tout ça dans Hunter x Hunter. C'est souvent les personnages qui ont ces émotions qui feront réfléchir sur ces concepts. Parce que dans Hunter x Hunter, on passe aussi bien du gars bien avec un système moral qui se retrouve à tuer, de criminels attachés à des valeurs de famille et d'amitié, ou encore d'une espèce non humaine devenant plus humain que les personnages principaux du manga dans leur cruauté qui se développe dans l'arc dans lequel ils apparaissent. Hunter x Hunter nous plonge dans la contemplation des émotions bien plus que dans un système moral, et c'est avant tout cela la puissance de ce manga. Et c'est pour ça que Hunter x Hunter, c'est la vie.
Bravo, wow. Bon, ça s'applaudit.
Merci.
Vraiment. C'est une magnifique chronique que tu nous as fait là.
Ouais, j'ai un peu bégayé quand même.
Non, mais c'est pas si simple.
Non, c'est sûr.
Ça donne très envie pour le coup.
Merci. Et Hunter x Hunter, faut le savoir, c'est un manga que j'ai découvert par l'ancienne version animée quand j'avais 7 ou 8 ans et qui m'a traumatisé. Au fait, j'avais vraiment une peur bleue, je détestais ce manga.
Ah ouais, d'accord.
Et
ah,
il s'est passé plusieurs années, je suis retombé dessus au hasard, j'ai commencé à lire.
Et on t'a obligé à le relire, quoi.
Et c'est ça, et j'ai compris à quel point c'était juste un des meilleurs mangas du monde, selon moi.
Ah ouais, bah c'est bien. C'est
tu
bien,
l'avais
moi, c'est
vu à quel âge sans indiscrétion?
Je devais avoir 8 ans à peu près quand j'étais tombé. Et c'était du coup le fameux passage où Killua choque le cœur d'un personnage au tout début du manga.
Parce que je sais qu'Hunter x Hunter, ça peut être, au départ on se dit que ça peut être une série très jeunesse.
Exactement.
Et en fait on se rend compte au fur et à mesure que non, vu les thèmes qui sont abordés. Bon, après on peut pas forcément traumatiser selon l'âge qu'on a, mais c'est surtout qu'il faut une certaine maturité pour tout comprendre.
À partir du moment où Hisoka apparaît, on comprend qu'on sera pas que dans la
jeunesse. Oui, exactement.
Voilà, là, c'est pas que ça.
C'est ce que je voulais retranscrire, oui, c'est qu'il y a une véritable limite morale, en fait, une véritable remise en question morale qui apparaît avec le personnage Hisoka, même des personnages comme Kurapika, comme Killua qui est à la base présenté comme un petit garçon sympa qui est un bah, c'est un peu bizarre. Mais quand on le voit, bon, spoiler alert, c'est le tome 2 par contre, désolé.
Oh là là.
Mais quand on voit qu'il doit arracher le cœur d'un de ses ennemis avec un grand sourire au visage, le mangaka nous impose vraiment une limite en réalité.
Ce qui est pas plus mal.
Oui, ce qui est très intéressant.
Bon, on pourra en parler longtemps, mais il va falloir que nous passions à nos chroniques suivantes. Peut-être quand même une petite pause musicale, surtout que nous a préparé une musique formidable dont je ne pourrais pas prononcer le nom.
La musique que nous avons écoutée se nomme Taiwa Yodomo Kagayaku, ce qui veut dire en japonais un soleil qui luit comme la nuit. Qui émet de la lumière comme la nuit, c'est un peu dur à traduire en réalité, du groupe Wino, et qui est au fait le deuxième générique de la première adaptation d'Hunter x Hunter, qui en a eu deux au fait, une en 99 et une en 2011, qui n'ont rien à voir. Je préfère le 99, car elle a une ambiance beaucoup plus, pas cauchemardesque, mais plus crépusculaire, je pense. Et donc oui, je préfère cet opening là, surtout qu'en plus il intervient au moment où Hunter x Hunter commence vraiment à changer de genre et à passer dans un arc beaucoup plus thriller et beaucoup plus crépusculaire, je pense que c'est le mot.
Eh bien on écoute ça, c'est parti. Et ben, ça va être le tour d'Eli, si je dis pas trop de bêtises. Qu'est-ce que tu nous as amené, Eli?
Et ben moi, je vous ai amené Poison City de Tetsuya Tutsui, dur à prononcer, qui en fait raconte dans un Japon très proche au final, même si c'est sorti en 2015, il me semble, je ne me rappelle plus, j'ai lu il y a longtemps. Oui, c'est ça, 2015. Qui en fait, le Japon qui se prépare donc à recevoir les Jeux Olympiques dit on va en gros assainir toute notre culture parce qu'on a eu quelques petits soucis avec avec des mangas controversés qui ont entraîné des petits problèmes légers. Et donc en fait là ça nous raconte l'histoire d'un mangaka qui doit se battre pour que son manga soit publié dans les conditions à peu près correctes,
ne soit pas censuré,
et en fait il se...
interdit,
spoiler alert, il n'y arrivera jamais. Mais c'est pas le fait qu'il n'y arrive pas, c'est toutes les implications. À chaque fois, on dit non, ça tu peux pas parce que ça, ceci, cela. Et en fait, ça montre comment la censure en fait devient folle pour pas grand chose en fait. Pour un...
Mais c'est même de l'autocensure d'ailleurs.
Oui, parce qu'à la fin, le mec, ils s'autocensurent, ils disent ouais, mais ça je peux pas parce que. Et en fait, juste on voit jusqu'où il est prêt à aller pour être juste publié, mais on se rend compte qu'il n'est pas heureux, en fait, il fait un travail qu'il n'aime pas.
Oui, oui.
C'est ça, et il devient quasiment mouton noir.
Ah oui,
bien sûr. Il est rejeté, simplement.
Il finit par choisir de quand même publier sur Internet, mais au final, il sait que ça voudra dire qu'il sera interdit dans les librairies. Mmh. Donc il fait un espèce de choix de « je veux quand même maintenir mon œuvre comme je la souhaitais, mais par contre, je ne serai pas vendu, je ne me ferai pas... je ne pourrais pas être payé pour ce que je fais. » Et voilà, il y a vraiment toute une question autour de cette notion.
Oui.
Si je peux déjà direct commencer sur les avis, moi je l'ai adoré. Franchement, non, j'étais contente parce que je trouve que c'est des thèmes qui sont intéressants, les mangas qui parlent de mangas. Je trouve que déjà c'est un peu sympa comme mise en abîme, le côté allez, on en parle un petit peu plus que seulement raconter une histoire d'action, de fiction ou même de quotidien comme on a vu avec Tineguchi. Là, on parle de le manga et derrière, on parle de la censure. Et j'ai découvert ensuite que l'auteur avait été victime en fait lui-même de censure.
Exactement.
Et que le thème, il le connaît très bien. Et là, on se dit ah oui, non, c'est pas que de la fiction.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a fait celui-là, parce qu'il a été censuré dans une préfecture et il était même pas au courant. En plus, il l'a appris un an après.
Ouais, pour le coup, il l'a appris.
Et donc, il l'a tellement mal vécu.
Plus que ça, 4 ans ou 5 ans après.
Et donc, il l'a mal vécu, il a dit je vais en faire un truc.
Bah, d'ailleurs, il faut savoir que ce mangaka, sa carrière était parfaitement morte au Japon avant qu'il y ait donc les éditions Kiyun en France qui viennent le contacter, notamment pour lui proposer de nouvelles œuvres. Donc, oui, aussi, ce qu'il faut savoir sur Poison City, c'est qu'en fait, c'est vraiment une critique, une satire de du système éditorial japonais, tel qu'on le voit, parce qu'en fait, contrairement à la façon d'éditer un livre, d'éditer une bande dessinée en Occident et en France, où l'auteur est laissé très libre quand même sur ses tons, au Japon, l'éditeur a des choix cruciaux, quasiment des choix artistiques, de direction artistique sur une série.
Bah, de toute façon, au Japon, il y a un concept, c'est qu'il y a un auteur va toujours avec un éditeur.
Bien sûr.
Et l'éditeur, en fait, influe vachement sur la façon de mener le récit, ce qui doit être dans le récit.
D'ailleurs, c'est très rare, les mangaka qui ne sont plus influencés par le...
Ah oui, non, c'est...
Et c'est souvent une marque des grands maîtres, d'ailleurs. Ouais. Notamment l'auteur de Hunter x Hunter, dont je parlais. Oh, l'auteur de One Piece ne sont plus influencés du tout. En fait,
je pense que les éditeurs de ces deux-là, ils doivent être en... C'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Oui, c'est ça.
Du coup, moi, j'étais en même très contente, pour le coup, de le découvrir, parce que je connaissais pas du tout cet auteur-là. Je trouvais ça vraiment intéressant de parler de censure et de, tout simplement, ce qui peut arriver, mais même pas pour que les mangas, pour le coup.
Ah oui, non, mais c'est parce qu'on entend le terme du manga.
Oui,
mais
finalement, c'était un thème qui est très général dans la bande dessinée.
Ah oui, de toute façon, oui.
L'auteur, les romans en général.
Oui.
Moi, j'ai trouvé ça très intéressant aussi.
Oui, c'est vrai.
Parce que ça nous fait découvrir aussi, on parlait du quotidien tout à l'heure, de la censure, mais aussi le quotidien lié à l'activité de mangaka et les relations, les éditeurs, les pressions. Il y a aussi, c'est des choses qu'on trouve peut-être différemment dans de la bande dessinée européenne, mais c'est les pressions qui sont... comment dire, une main de fer dans un gant de velours.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
Bien sûr. Mais en même temps, c'est non.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, au Japon, c'est très très mal vu de dire non, directement, froidement. Du coup, souvent, ils vont dire oui, mais machin.
Ça décrit bien ce phénomène, je trouve. Moi, j'ai trouvé ça intéressant.
Bah, d'ailleurs, dans le même thème, je trouve qu'il y a vraiment un thème de la société japonaise, de manière générale, dans ce manga. Parce que je comprends peut-être quelque chose, mais il me semble que dans ce manga, le personnage principal écrit une histoire de zombies. C'est ça.
Oui, c'est ça.
Et en fait, il voit de plus en plus les gens autour de lui comme des zombies, etc. Ouais. En fait, il y a vraiment un côté zombification de la masse, zombification de la masse par rapport à au déterminisme de la société japonaise et sur le fait que tout le monde doit être dans
un
cadre
moule
externe
qui est bien défini.
Donc encore un super manga qu'on a adoré, hein.
Et puis très intéressant. Ouais. Enfin, je veux dire, non, graphiquement, c'est vraiment réussi.
C'est très sympa.
Et puis vraiment avec une histoire riche. Et puis c'est bien quoi.
Sans deux tomes. J'espère que t'as le deuxième tome, Ellie.
Oui, j'ai le deuxième tome. Je te ramènerai la suite. Je l'oublie en partant.
Ouais, pas grave, pour une autre fois. On passe au dernier si ça vous va.
Allez.
C'était mon petit manga. Moi, je vous ai ramené Silent Voices. Je suis pas très doué en anglais. Ça n'empêche que le récit est assez intéressant. Silent Voice, on a tendance à le classer plutôt ado, c'est presque jeunesse, on va peut-être pas aller jusqu'à 8 ans, mais c'est un manga qui peut se lire assez tôt. C'est l'histoire de tout simplement deux personnages, un garçon qui est un garçon qui s'aime peu, qui a des soucis, qui est assez dépressif, et qui va retrouver une camarade de classe, une ancienne camarade, qui est sourde, qui a besoin d'appareils auditifs pour entendre. Et il se rappelle d'elle, puisqu'en fait, ils étaient ensemble dans les, entre guillemets, classes primaires, hein, l'équivalent au Japon. Et en fait, ce qu'il a un peu oublié, c'est qu'il a été le bourreau de cette petite fille, puisqu'il a peu à peu monté la classe entière contre elle. Il s'est défoulé sur elle, on le découvre au fur et à mesure du manga. Et eh bien, en fait, à force d'être le bourreau, il s'est retrouvé peu à peu la victime, puisque sa classe a fini par trouver le jeu plus très drôle et a fini par se retourner contre lui. Mmh. C'est l'histoire de ces retrouvailles et forcément de cette relation très étrange entre ces deux personnages qui, en fait, on parle tout simplement de harcèlement dans ce manga.
Oui, clairement. Harcèlement clairement.
D'une personne handicapée en plus, donc on t'aime bien, voilà.
Voilà.
Et c'est quelque chose que... C'est un manga que j'ai découvert et qui m'a mis aussi une claque, tu vois, comme toi, Taniguchi. Mmh. Moi, celui-là, quand j'ai découvert le thème, là, ah oui, on peut parler de harcèlement, de surdité,
et pourtant,
c'est très très bien fait.
C'est fait de manière très très sentimentaliste, mais à la fois de manière très crue. En fait, ça veut pas par contre.
Moi aussi, ça m'a mis une claque dans le sens genre, mais ça, d'ailleurs, c'est horrible.
Oui, on parle de la cruauté des enfants, on parle de
l'innocence de l'enfance. Faut arrêter,
ça n'existe plus,
c'est plus possible.
Mais oui, c'est un sujet d'ailleurs qui est très 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 sensible au Japon, le sujet de ce qu'on appelle l'ijime, ou la brimade scolaire, le harcèlement scolaire, parce que c'est quelque chose, il y a beaucoup de déni de la part du corps enseignant et de la part des élèves eux-mêmes qui font l'ijime.
C'est bien retranscrit d'ailleurs dans le manga, justement, parce que les enseignants, ils minimisent toujours le truc, ou là, au moins, il y a dans une case, sans spoiler, il dit « même si je comprends
».
Ce qui est, je trouve ça horrible, en fait. Qu'un enseignant dit « c'est pas bien, même si je comprends.
Oh, c'est terrible. C'est horrible. C'est possible, c'est réel. Ça s'entend.
Voilà,
c'est
terrible. Moi, il y a qu'un petit truc qui m'a gêné. Je vais te faire.
C'est la critique.
Non, c'est une très légère critique. Mais c'est que ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que par rapport à l'âge supposé des. Enfin, c'est pas supposé. L'âge des personnages, donc qui sont en primaire, qui sont. C'est du niveau CM1, CM2.
CM2, c'est même
c'est
précisé.
Ils font déjà comme des collégiens, quoi. Je veux dire, ils ont déjà le physique d'enfants plus grands.
Mais
ça m'a un petit peu. Voilà, bon, c'est la seule nuance que je mettrais, mais c'est pas grand chose, mais quand même, moi je trouve que ça m'a gêné un peu au départ. Après on s'y fait.
Je trouvais que les corps paraissaient plus grands par rapport aux âges. D'accord. J'aurais pas remarqué pour le coup, parce qu'il peut, y a quand même bien une différence, puisqu'on a deux temporalités dans le manga.
On a
tous les flashbacks à primaire, et puis donc le retrouvaille de ce personnage au collège, on suppose.
Oui, c'est fin du collège.
Ouais, c'est du collège, c'est ça.
Ouais, c'est presque
et il y a
quand
même une différence entre les deux que moi je trouvais quand même un petit peu marquée. Bon, après, effectivement. C'est un peu culture manga de faire des corps un peu plus grands parfois.
Oui, tout à fait.
Qui peut être représenté, quoi. Donc, mais effectivement, j'entends tout à fait cette critique. Il est très typique dans son dessin. Alors, moi, je le trouve très beau, mais il reste dans les conventions du manga.
Un dessin.
Après, s'il doit fournir un chapitre par mois, il faut qu'il aille.
C'est une chose qui, moi, m'avait marqué, je sais pas vous, mais c'est aussi tout ce choix de que le personnage voit toutes les personnes qu'il ne supporte plus avec une croix sur le visage. Je sais pas si vous avez le temps de le repérer. Moi, je trouvais que c'était très marquant aussi comme façon
c'était très
de voir son point de vue. C'était une façon très immersive de se mettre dans sa peau. Mais et globalement, c'est un manga où on se met dans la peau d'un bourreau.
On ne
se rend pas compte finalement qu'il est devenu bourreau.
C'est ça.
C'est une façon d'aborder le harcèlement qui est un peu différente aussi.
Oui. Et puis il faut savoir que l'auteur, je crois que c'est sa mère, soit est sourde, soit travaille avec des sourds, des enfants sourds. Et du coup, en fait, elle a voulu retranscrire tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a vu de son enfance. Donc il y a beaucoup de vrai dans ce manga.
Et justement,
il y a un côté vraiment prend au trip qu'on trouve un peu dans des trucs comme Bonne Nuit Poun Poun. Ou ce genre de manga qui sont très humanistes et qui n'hésitent pas à passer par le symbole, au fait. Par exemple, d'avoir les grosses croix, d'avoir Poun Poun dans Bonne Nuit Poun Poun, qui est une espèce de petit oiseau tout mignon à côté de personnages très réalistes. Il y a vraiment ce côté volonté de retranscrire la chose. En fait, c'est plus un manga qui est presque journalistique, dans sa façon de retranscrire la chose. Et d'ailleurs, c'est une très bonne auteure d'ailleurs, dont j'ai beaucoup lu. Elle a fait un autre titre qui s'appelle. To Your Eternity.
Ouais. Sorti... Donne l'auteur parce que je l'ai pas donné. Yoshitoki Ohima.
Oui, c'est ça. Yoshitoki Ohima.
Ouais.
Yoshitaka? Yoshitoki?
Yoshitoki.
Ok, ouais. Excusez-moi.
Voilà, donc j'espère que c'est une découverte qui vous a plu et qui. Voilà.
Ah bah moi j'ai adoré. Moi j'attends la suite aussi. Si tu l'as.
Alors il y a plus de tomes que de tomes. Il y en a au moins 5 ou 6 de mémoire. Je n'ai pas la suite, mais tu peux l'emprunter dans toutes les bonnes bibliothèques.
Exactement.
c'est ça.
C'est toujours mon petit credo. Ah, désolé, j'ai pas suivi la série, mais voilà, je voulais quand même vous la faire découvrir parce que je la trouvais intéressante. Ben voilà, ça va être tranquillement la fin de notre émission. On rappelle quand même les dates pour Manga sur Loire.
Oui, qui sont le 9 novembre de 10 à 20
h. Super, et puis donc vous pourrez y voir Nicolas, du coup.
Mm-hmm. J'aurai un stand d'ailleurs.
Très bien. Tu dédicaceras des affiches,
je suppose. Je dédicacerai des affiches, je dessinerai, puis je vendrai des illustrations, en fait, des D'accord. originaux. Voilà.
D'accord. Ah, cool.
C'est formidable. Ben voilà, Philippe.
Merci. Merci Laure, tu nous as mené ça de main de maître.
Ah, oui, c'est vrai. L'expert technique.
On fait comme on peut. Hein.
Oui, hein. Tu peux bien.
Et puis donc, nous, on vous donne rendez-vous le prochain samedi, le premier samedi du mois à 15h, mm-hmm. puisque c'est maintenant notre émission mensuelle. Et puis, ben, on vous dit à bientôt.
À bientôt. Merci de m'avoir accueilli encore une fois.
Avec plaisir.